Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag. Erwan Morris.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot. Au programme, dans cette émission, la motivation des collaborateurs. Comment écouter les salariés pour mieux les impliquer? On en parle avec le DRH de la semaine, André Decouter du groupe Barrière. Dans cette émission, désormais, nos avocats en droit du travail répondent aussi aux questions que nous adressent nos auditeurs, Jeanne.
Et aujourd'hui, un auditeur nous demande si on peut se faire virer par SMS. C'est l'avocat Virgile Puyot qui lui répondra. Vous nous posez vous aussi toutes vos questions à l'adresse happyboulot@bfmbusiness.fr.
On verra ça tout à l'heure. Jeanne, cette semaine, vous êtes aussi allée à la rencontre des salariés de la Défense pour leur demander s'ils étaient payés à leur juste valeur. On écoutera leur réponse. La juste rémunération, ce sera justement l'objet de notre focus. Sans oublier en fin d'émission la carte blanche de Lucie Carbone et notre labo d'innovation RH. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le DRH de la semaine.
Bah oui, c'est bien souvent un défi RH de faire en sorte que les salariés d'une entreprise soient et restent engagés sur la longueur. Il faut apporter des réponses à l'ennui, à la démotivation, au désintérêt aussi parfois, hein, malheureusement pour les employeurs. Alors comment faire pour ne pas en arriver là déjà? C'est notre DRH de la semaine qui va nous le dire. Bonjour André Decouter.
Bonjour Erwan.
Merci d'être là, DRH du groupe Barrière. Les établissements haut de gamme, hôtels, restaurants, casinos, vous avez fêté vos 110 ans. C'est 7000 collaborateurs aujourd'hui, Barrière. Déjà, on se demande comment toujours on arrive à faire de la bonne gestion RH quand on gère un groupe de cette taille. Il faut beaucoup d'outils numériques, de technologies aujourd'hui pour faire en sorte que les relations humaines soient facilitées.
Alors oui, bien sûr, il faut des outils. Par contre, ça ne remplace pas les équipes qui sont sur le terrain et qui accompagnent aussi au quotidien toutes les ressources humaines du groupe. Bien évidemment, mais par contre, on va dégager de la donnée. Et cette donnée, effectivement, il faut qu'on ait des outils adaptés pour pouvoir la traiter et pouvoir l'intégrer et en faire des plans d'action.
Et réussir à impliquer les collaborateurs, ça, parce que c'est souvent on essaie d'avoir une relation avec ses salariés, mais on n'a pas forcément les retours. C'est-à-dire, on peut lancer des sondages, ils vont pas forcément répondre derrière pour dire s'ils sont bien au travail ou pas, s'il y a des choses qu'ils aimeraient voir améliorer.
C'est exact. Et on a besoin pour ça d'outils simples qui ne prennent pas de temps, notamment sur les sondages, la mesure du climat social, des outils qui sont rapides, efficaces et qui remontent de l'information précise.
Alors comment vous faites-vous ?
Alors nous, on a depuis 2019 un partenariat avec Supermood, qui est un outil effectivement qui nous permet d'interroger l'ensemble de nos collaborateurs. Et à partir de là, tous les deux mois en moyenne, on va vers eux avec un certain nombre de questions pour voir où est-ce que les collaborateurs ont des besoins et comment on peut y répondre.
Et vous avez ça fonctionne ? Enfin, vous avez des retours, des remontées de terrain ?
Ah, ça fonctionne très bien, oui. Mmh. Ça fonctionne très très bien. C'est un outil qui nous permet aussi de calculer l'INPS, le niveau de satisfaction de nos employés. Et après, effectivement, les questions que l'on pose sont des questions fermées, donc relativement simples à répondre. Et puis, on a toujours une ou deux questions ouvertes. Et donc le sondage va prendre 3-4 minutes à répondre, ce qui nous permet d'avoir un taux de participation intéressant.
André Decouter, il faut derrière avoir la capacité aussi d'apporter des réponses, parce qu'une fois qu'on a fait les remontées de terrain, c'est très bien, effectivement, j'imagine que c'est un outil très intéressant pour votre métier. Mais il faut agir aussi, c'est ce qu'ils attendent les salariés.
C'est clair, c'est-à-dire que prendre de l'information pour la stocker, ça sert à rien. Prendre de l'information et en faire la transformer en plan d'action, c'est un peu ce qui nous motive, nous, quand on récupère la donnée. On fait entre 5 et 6 sondages par an, donc et entre chaque sondage, on met en place avec les équipes RH et les équipes de direction des plans d'action qui permettent de répondre aux préoccupations de nos collaborateurs.
On va voir peut-être comment vous faites. D'abord, mais j'ai l'impression que c'est quand même un exercice d'humilité ce que vous faites, c'est-à-dire c'est accepter aussi qu'on vous fasse un certain nombre de remontées négatives et donc qu'on vous dise que y a des choses qui ne vont pas dans l'organisation, dans l'entreprise.
Oui. Mais je pense que c'est le meilleur moyen de progresser parce que effectivement imposer des choses à l'ensemble de nos collaborateurs, ça n'apporte pas grand chose en termes de politique RH et en termes de stratégie RH. Par contre, écouter les collaborateurs et répondre à leurs besoins, on a tout gagné au bout du compte.
Soyons très concrets, est-ce qu'il y a des remontées que vous avez pu avoir et qui vous ont fait évoluer sur certains sujets?
Il y a des positions qu'on a changées, effectivement. Je prends un exemple qui me traverse l'esprit. Post-Covid, on a mis en place dans le groupe un certain nombre de mesures sociales, dont une était effectivement la mensualisation du 13e mois.
Donc verser à tous les 31 du mois plutôt qu'au mois de décembre.
Absolument, ouais. Pour essayer d'augmenter pour augmenter le cash mensuel.
Et ça, vous l'avez conservé?
Et ça, on l'a conservé, mais on l'a adapté suite aux remontées qu'on a eu du terrain.
Ouais, donc, de quelle manière?
Effectivement, en fait, pour les anciens collaborateurs qui bénéficiaient du 13e mois, qui était versé deux fois par an et qui ont souhaité le conserver, on l'a conservé, on a adapté nos systèmes en conséquence.
Ouais, ça c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça qu'on peut citer?
Alors, il y a d'autres exemples, bien évidemment, parce que dans les sites, chaque site fait des sondages en fonction des préoccupations des collaborateurs du site. Et donc, ça permet effectivement de travailler l'ergonomie des postes de travail, par exemple, de les impliquer avant que l'on fasse des travaux, de les impliquer avant qu'on prenne des décisions importantes. Et donc, avant de finaliser un projet, je veux dire, on a un peu de données sensibles et dont on tient compte, bien évidemment, pour le futur.
Et pour terminer, est-ce que ces techniques d'échange avec les salariés vous permettent de constater des améliorations? Est-ce que vous refaites des enquêtes, des sondages derrière, pour reposer les questions pour voir si
On repose des questions des fois sur les mêmes sujets, mais de toute façon, l'amélioration, on la teste tout de suite avec l'INPS. Le taux de satisfaction des collaborateurs, il est instantané et donc évolue à chaque sondage.
André de Couter, il nous reste une minute. C'est la nouveauté de cette rentrée dans Happy Boulot, la boîte du DRH que Paul va vous apporter tout de suite pour mieux savoir quel DRH vous êtes. Hein. Voilà, c'est l'exercice de la rentrée. Je vous invite à piocher quelques papiers. On va en prendre peut-être deux ou trois. Ce sont des phrases à compléter. Vous nous lisez le début et puis il faut la compléter spontanément. On vous écoute.
Alors, dans ma boîte, je sensibilise les collaborateurs, à parfaire l'accueil client.
Oui, ça c'est quelque chose d'important dans le groupe Barrière.
Bah oui, la symétrie des attentions est importante. Donc, faire plaisir aux collaborateurs, ça passe avant tout par faire plaisir aux clients, pardon, ça passe avant tout à faire plaisir à nos collaborateurs.
Vous pouvez laisser le papier, je vous en laisse en tirer un petit dernier.
Dans ma boîte, l'intelligence artificielle, c'est... L'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est un outil car c'est important de l'avoir pour nous aider à déployer et à analyser nos données.
C'est déjà là chez vous?
C'est déjà là chez nous, ouais. Notamment avec certains systèmes de jobboard.
Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, André de Couter, DRH du groupe Barrière.
Merci à vous.
Avec plaisir, merci d'avoir été notre invité. Tout de suite, Jeanne appelle notre expert pour les réponses à vos questions.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Coup de fil à l'expert.
Les réponses à nos auditeurs aujourd'hui avec Virgile Puyot. Bonjour, avocat associé du cabinet Winston & Strawn. On nous demande s'il est possible de se faire virer par SMS.
Alors non, il n'est pas possible de se faire licencier en France par SMS. Tout licenciement doit être précédé d'un entretien préalable. Entretien préalable au cours duquel l'employeur exposera aux salariés les raisons qui le conduisent à envisager son licenciement. Et c'est qu'à l'issue de cet entretien que le licenciement peut être notifié aux salariés par lettre commandée avec accusé de réception.
Merci Virgile Puyot, avocat associé du cabinet Winston & Strawn. Continuez à nous envoyer vos questions sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On y répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le Focus RH.
Focus sur l'argent aujourd'hui, c'est le sujet de notre discussion du jour. Jeanne Spicarolène est allée à votre rencontre dans les quartiers d'affaires de Paris sur le parvis de la Défense pour vous demander si vous estimez que vous êtes payé à votre juste valeur. Voici les réponses.
Non. Là, on a beaucoup de problèmes de santé au niveau du dos, musculaire et tout. Et au final, c'est vrai qu'on n'est pas payé énorme, quoi, comme si on n'était pas reconnu.
Pas du tout, parce que je fais le travail de deux personnes. J'ai des objectifs à faire chaque mois. Les objectifs que je fais sont atteints. J'estime que je pourrais être mieux payé.
En tant que serveur, franchement, j'étais bien payé. J'étais payé mieux que beaucoup de gens.
Oui, j'estime être payé à ma juste valeur. Parce que j'estime que les compétences que j'ai, au regard du salaire que j'ai, sont à la valeur que j'estime être la bonne.
Je suis en formation, on m'apporte beaucoup plus que j'apporte. Et au-delà d'être payé, ils payent aussi mon école, etc. Donc j'estime être payé à ma juste valeur.
Bon bah voilà, on a deux tours, on a ceux qui râlent, on a ceux qui sont plutôt contents, bah ça fait plaisir aussi de voir qu'il y en a qui sont satisfaits. La juste rémunération, c'est le sujet de notre focus avec nos deux invités que j'accueille. Bonjour Sophie Lazaro, pardon.
Bonjour.
Merci d'être là, vous êtes directrice conseil du capital humain chez Deloitte, vous avez publié il y a quelques jours votre étude sur les rémunérations annuelles. Oui. On va y revenir et avec vous Sandrine Dorbe, bienvenue.
Merci.
Fondatrice de How Much, spécialiste de la stratégie de rémunération. Est-ce qu'on peut dire déjà que les Français sont particulièrement mécontents de leur rémunération? On a cette réputation de râler un petit peu sur tous les sujets. Vous en pensez quoi ?
Oui.
Oui.
Alors,
ah,
je dirais pas que les Français sont insatisfaits de leur rémunération parce que traditionnellement, on aime bien râler. Mais en vrai, la rémunération, en France en tout cas, c'est deux tabous. C'est le tabou de l'argent et le tabou des émotions.
Qui existe toujours parce qu'on a la culture anglo-saxonne, américaine, où on n'a aucun problème à parler de combien on gagne. Et on a beaucoup dit... Ces dernières années, enfin, depuis très longtemps, que c'est tabou en France. Est-ce que ça change ou pas ?
Alors, non. Clairement non, parce qu'on en revient sur le fait que parler d'argent, c'est difficile. Parler de ses émotions, de sa vulnérabilité, de ses besoins, déjà, il faut les identifier. Ouais. On nous a pas appris ça à l'école. Ensuite, il faut en parler, c'est hyper compliqué. Donc, parler de rémunération, ça reste encore aujourd'hui compliqué, quand bien même, on est aussi très influencé par les pratiques internationales. Ce qui est compliqué avec la rémunération, en plus... C'est qu'on est dans une grosse... Enfin, on individualise beaucoup les rémunérations. Et plus on individualise, moins on est transparent, plus le sujet est compliqué à aborder. Quand on est dans la fonction publique, par exemple, quand on a une rémunération qui est définie par une grille, qui évolue en fonction du temps qui passe, c'est beaucoup plus facile d'être transparent et d'en parler plus sereinement.
Bien sûr, on sait que tout le monde en fait est payé de la même manière.
Il n'y a pas de secret.
En fonction de l'ancienneté, ce qui n'est pas le cas, c'est exact, dans le privé. Vous avez vu dans le micro-trottoir à réaliser à La Défense, ça vous a peut-être frappé comme moi, il n'y a que des hommes qui ont témoigné. On n'a pas entendu une seule femme. Pourtant, Jeanne Spicarolène, qui est allée sur le parvis de La Défense avec sa caméra, son micro, elle a posé la question à tout le monde. Aucune femme n'a souhaité répondre. Qu'est-ce que ça dit, ça ?
Alors, moi, ça me fait penser à Christine Lagarde. En 2020, elle avait fait une vidéo qui a été beaucoup partagée sur Brut, où elle expliquait qu'en 40 ans de carrière, dans le privé, dans le public, dans l'industrie, dans le conseil, dans la finance, elle n'avait jamais eu une collaboratrice qui était venue lui parler de sa rémunération. Alors que des collaborateurs qui venaient réclamer un peu plus, elle en a vu passer. Ça aussi, c'est culturel. On a un sujet, alors maintenant on en est de plus en plus conscient. On n'éduque pas les petites filles comme on éduque les petits garçons. On a un sujet d'éducation, de sociabilisation. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'à 30, 40 ans plus tard, les femmes aient du mal à aborder ce sujet en public.
Sophie Lazaro, directrice conseil du capital humain chez Deloitte. Vous avez, je le disais, publié il y a quelques jours votre étude sur les rémunérations annuelles. Oui. Il y a un focus justement là-dedans sur hommes-femmes.
Oui.
Alors, oui. Et il y a des choses intéressantes aussi qu'on voit.
Oui, il y a des choses intéressantes. Alors, peut-être rebondir effectivement sur le sujet de la communication de la rémunération, tant du côté des salariés que des entreprises. Donc, du côté des salariés, effectivement, un sujet toujours tabou, même si les nouvelles générations viennent bousculer quand même un petit peu ces tabous par rapport aux plus anciennes générations. Et puis, vis-à-vis des entreprises, gardons aussi en ligne de mire la directive européenne qui prévoit aussi plus de transparence sur les rémunérations. Et là, il va falloir qu'on accompagne les entreprises pour travailler sur la communication et de la transparence de leur rémunération. Donc, peut-être pour réagir par rapport à ce sujet de communication. Oui. Alors effectivement, si vous voulez qu'on on aborde tout de suite le sujet des femmes, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc au sein de notre équipe, effectivement, et dans le cadre de notre équipe, de notre étude, tous les ans, on surveille l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, en passant par la représentativité des femmes dans chacun des niveaux hiérarchiques. Parce que le vrai sujet, c'est d'abord la représentativité des femmes à tous les niveaux de responsabilité, et puis ensuite d'avoir une rémunération juste, équitable par rapport à nos collègues.
Et qu'est-ce que ça donne ?
Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, après trois années blanches pendant laquelle, finalement, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes était stagnante, c'est-à-dire on était à moins 3,7% d'écart moyen entre les hommes et les femmes à niveau de responsabilité équivalent et à niveau de travail équivalent. Ce chiffre, il s'est amélioré. Après trois ans de stabilité, on a moins 2,6%. Alors, ce qui est déjà un énorme progrès au niveau statistique et envoie de bons messages. Ça veut dire que les entreprises, elles se sont beaucoup mobilisées dans un contexte de renforcement obligations réglementaires, hein, l'index, la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes. Donc ça, c'est un chiffre clé. L'écart de salaire s'est réduit. Mmh. Et puis, ce que je trouve intéressant dans notre étude, c'est qu'on a pu voir aussi que la représentativité des femmes dans la catégorie cadre supérieur a progressé. Vous savez, on a beaucoup de sujets avec la loi Rixin sur la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes, de dire il n'y a pas de vivier féminin.
Oui.
Ben si, il y a un vivier féminin et il s'agrandit, ce vivier féminin. On est passé de 27%, enfin de 25% de femmes cadres supérieurs à 27%. Mmh. Un effort de 2 points qui est énorme par rapport au chemin à parcourir.
Donc ça progresse. On voit malgré tout toujours qu'il y a de la déception. On trouve régulièrement qu'on n'est pas assez bien payé par rapport à ce qu'on fait. Et en même temps, ce que vous montrez toujours dans cette étude chez Deloitte, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par les entreprises oui. dans cette période de hausse du coût de la vie. L'inflation, les entreprises ont suivi, elles ont été quand même au rendez-vous. Oui. Malgré ça, on continue de croire qu'on n'est pas assez payé.
Oui, c'est vrai que le contexte, il est inédit. Hein, donc, on peut comprendre la réaction des salariés parce que finalement, si on se raconte encore le contexte, on a quand même une inflation de plus 5,6% sur un an, avec une inflation très très forte, je dirais, sur les biens élémentaires, c'est-à-dire l'alimentaire et l'énergie. Donc, c'est vrai que ça impacte clairement les collaborateurs et notamment les plus bas salaires. Deuxième chose, on a quand même l'État qui est beaucoup intervenu avec la hausse du SMIC. Donc, on a quand même un SMIC qui a augmenté de 12,4% sur 2 ans.
Qui est automatique. Hein,
qui est automatique, donc qui s'est imposé aux entreprises. Ouais. Et puis, troisième élément qui a poussé les entreprises à faire beaucoup d'efforts sur les rémunérations, hein, je reviendrai sur des chiffres, c'est les tensions sur le marché du travail, ou si on parle de manière plus positive, la reprise de la mobilité professionnelle. Plus de 500 000 démissions par trimestre. Ouais. Et beaucoup de métiers en tension, donc beaucoup de problématiques sur le recrutement, ouais. l'attractivité, mais aussi la rétention des talents.
Il y a ce phénomène aussi, Sandrine Borbe, de la démission. Quand on n'est plus satisfait de cadre de travail, mais aussi de la rémunération, on s'en va. Ça se fait plus facilement peut-être aujourd'hui.
Alors ça se fait plus facilement, ça dépend d'où on parle. Mmh. Et certains métiers pour lesquels c'est plus facile... Certains bassins d'emploi, certains métiers, c'est facile de partir à la concurrence. Et encore, ces 6 derniers mois, on déchante un peu. Hein. Mais c'est pas le cas partout. Il y a certes beaucoup d'entreprises, et c'est ce qu'on voit dans l'étude de Deloitte, qui ont fait des efforts, qui ont essayé de rattraper un peu l'inflation. C'est pas le cas de tout le monde non plus. Et je vais réagir à ce que Sophie a dit par une anecdote. Chez un de mes clients, je parlais à une collaboratrice qui est insatisfaite. C'était il y a un an, l'inflation est à 6%, quelque chose comme ça. Et elle est insatisfaite parce qu'elle vient de recevoir une augmentation de 6,5%, ce qui était énorme dans sa boîte. Elle me dit « Non, ça ne me convient pas, je ne gagne rien. L'inflation est de 6%, au moment de 6%, je ne gagne rien. » On en revient sur le sujet que la rémunération, ce n'est pas qu'une question d'argent, et c'est un sujet qui est très émotionnel. Factuellement, il y a eu des efforts de fait. Concrètement, ça ne suffit pas toujours.
C'est une question de valeur aussi. C'est est-ce que je suis payé à ma juste valeur? Est-ce qu'on me considère suffisamment?
Alors, et qu'est-ce que la valeur?
Il nous reste 1 minute 30, ça va être compliqué.
Et alors, en 10 secondes, je me suis posé la question de la valeur avec The School of Life. Ouais. On voulait faire un atelier sur être rémunéré à sa juste valeur. Et finalement, on a pris le parti de traiter le sujet par 2 angles. Quelle est ma valeur? Ou plutôt, quelle est la valeur de certaines de mes compétences sur un certain marché à un moment donné? Donc là, il faut faire un benchmark. Ouais. L'autre volet, c'est finalement, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi les besoins importants qui m'habitent? Et comment est-ce que le travail que j'effectue aujourd'hui, il nourrit ces valeurs-là?
Il faut voir aussi les critères peut-être qu'on prend en compte. On entendait parler dans ce micro-trottoir justement de la pénibilité du travail, des amplitudes horaires, des responsabilités. On me demande de faire en fait 2 postes en étant payé pour 1. Ça, c'est des choses qui rentrent en compte dans le jugement de « je suis suffisamment payé ou pas ».
Oui, puis on se compare.
Ouais.
Entre collègues, on le sait tous, hein, on se compare. Quand on a l'impression qu'on est particulièrement en difficulté et que, de notre point de vue, on pense que les autres ne le sont pas, pour peu qu'on connaisse leur rémunération, on se compare et on se dit « Mais pourquoi est-ce que moi, je devrais galérer autant pour ce niveau-là » Et par contre, dans le micro-totoir, on entendait aussi quelqu'un qui disait « Mais moi, aujourd'hui, je suis en formation, je reçois beaucoup plus que ce que je donne. » Et donc, lui, typiquement, lui parle de ses valeurs. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ça le nourrit. Ça nourrit ses valeurs et pour le moment, c'est OK pour lui.
Bon, pour terminer, comment on fait pour être davantage satisfait de sa rémunération? Est-ce qu'on a des réponses à ça? Sandrine Torb, Sophie Lazaro.
Ça peut être effectivement regarder la rétribution globale. Hein, c'est un petit peu ce qu'évoquait Sandrine par rapport au jeune homme qui parle de la partie formation. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est de regarder toute la partie monétaire, numéraire, donc la rémunération fixe, le variable, toutes les primes, etc. Mais aussi les conditions de travail, ça c'est important. Le rythme de travail, mais aussi le management. Donc effectivement, toute la partie culture d'entreprise. Donc, dans notre dernière étude sur les jeunes générations, on a bien vu qu'il y avait ces trois piliers qui sont effectivement tout d'abord le sens, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise est engagée dans une démarche RSE, la rémunération et puis le parcours qu'on va me proposer, ce qui comprend notamment l'investissement formation qu'on
fait
sur moi.
Il faut peser le pour et le contre dans toutes ces catégories. Le mot de la fin ?
Moi, je dirais qu'il faut apprendre à parler d'argent. Ce que je constate, c'est que souvent les personnes qui sont... En 10 minutes, il me faudra un peu plus de temps. Mais concrètement, des personnes qui sont frustrées de leur rémunération, moi je constate souvent, c'est des gens qui n'en parlent pas parce qu'ils n'ont pas non plus appris à en parler. Dans rémunération, mais tout et n'importe quoi. Et comme le disait Sophie, il faut regarder le sujet d'un point de vue global. Et je me souviens d'une contrôleuse de gestion qui était frustrée de son boulot, elle voulait chercher sur le marché, elle voulait changer de boulot, elle postule, elle se remet sur le marché de l'emploi. Sauf que quand elle mettait bout à bout les primes, les avantages, les congés, elle se rendait compte qu'en fait, elle n'était pas si mal payée que ça. Et cet exercice-là de se mettre sur le marché, ça lui a fait du bien.
Et ben voilà, on vous invite aussi à faire cet exercice chez vous. C'est pas dangereux, vous pouvez y aller. Merci beaucoup Sandrine Dorp, fondatrice de How Much, spécialiste de la stratégie de rémunération. Sophie Lazaro, directrice conseil du capital humain chez Deloitte. C'est l'heure de la carte blanche de la comédienne Lucie Carbone qui, pour la rentrée, vous allez voir, remet les points sur les i.
BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. Carte blanche.
Bonjour à tous, bienvenue dans le chaos, le kick-off. Je vais pas y aller par quatre chemins, vous êtes au courant, c'est la rentrée. Retour au front. On va se remobiliser, on va se mettre en ordre de bataille. Pour démarrer, je vous propose une petite revue des troupes. Je tiens déjà à vous préciser qu'on a déjà perdu Issa. Issa est rentrée lundi, elle est arrivée au bureau, et elle est tombée sous un raid de mail. Suivi d'un scud, de l'ADG. 3 jours d'arrêt. Alors faites attention, c'est la rentrée. Le terrain est miné. Si vous ouvrez votre boîte aux lettres et que là vous vous dites potentiel scud, vous vous mettez à couvert dans un box. Ensuite, Valérie, t'es au courant pour la task force performance ? Parce que t'es dedans. T'es bien dedans. T'as déjà mis les pieds dans la boue ? T'es fatigué ? Tu rentres de 3 semaines de congé, Valérie. T'étais en congé avec tes enfants ? Oh. Dont un ado ? Pff, au camping ? Aïe, t'imagines que c'est toi qui as dû faire la vaisselle, Valérie ? Je suis désolé, je savais pas. Tu te reposes, tu prends soin de toi. En attendant, on va te mettre au support. Patrick ! Bah Patrick, t'as oublié ta crème solaire à Gare de Lyon ou quoi ? T'as la tête d'un poulet qui s'est échappé d'une rôtisserie là. T'es plus rouge que le picto rouge des reporting. Patrick, pour les présentations clients, tu coupes la caméra. Moussa ! Super, hein, t'as été là tout l'été, t'as assuré tous les backups, t'as été sur le pont, bravo ! C'est super, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine ? Tu pars en congé ? Tu désertes ? 3 semaines ? Qui a validé ça ? Moi j'ai validé ça ? Oh non ! Moussa ! Pas toi ! Qui c'est qui va faire un test force performance ? Et moi ? Non, parce que moi, mes congés, c'est en juillet. C'est loin. Allez, va falloir serrer les coudes. Va falloir être fort. Hein, parce que cette année, le 11 novembre, ça tombe en samedi. Allez, courage à nous. Allez, les braves.
Allez, les braves, elle est extra, Lucie Carbone. On est ravis de vous la faire découvrir aussi dans Happy Boulot sur BFM Business. Vous la retrouvez régulièrement dans la carte blanche et en spectacle au point virgule tous les mercredis à 21h15. Il est l'heure de tester notre innovation de la semaine.
BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. Le Labo RH.
Avec Yann Le Floch, bonjour.
Bonjour Erwan.
Directeur général de Stairwage, spécialiste du versement du salaire à la demande. 500 entreprises clientes qui la proposent aujourd'hui à leurs salariés. La demande, elle est particulièrement forte avec l'inflation aujourd'hui. C'est un réflexe qu'on a de plus en plus.
Alors juste pour expliquer d'où est parti Stairwage. La genèse est très simple, c'est qu'on est parti d'un triple constat. D'un constat simple avec trois raisons. Oui. Le constat, c'est que les Français ont du mal à faire face à leurs imprévus financiers. Et oui, effectivement, l'inflation est passée par là et a rendu encore plus difficile de faire face à ces imprévus financiers. Trois solutions aujourd'hui. Première solution, demander de l'argent à de la famille ou des amis, ce qui est plutôt gênant. Deuxième solution, le fameux découvert bancaire. Et là, le découvert bancaire, c'est 7 milliards d'euros d'agio et de frais bancaires. Et ça coûte cher. Et la troisième solution, c'est effectivement la solution d'acompte sur salaire qui est un droit pour le salarié.
Donc ça, c'est ce que vous proposez, une alternative au crédit à la conso, éviter les découverts bancaires. En fait, là, c'est quoi? Ça va rien nous coûter, c'est ça? C'est l'entreprise qui paye, en fait, qui paye
votre solution? Absolument, c'est offert par l'entreprise à l'ensemble de ses collaborateurs et c'est complètement gratuit pour le salarié.
Donc, et c'est quoi l'intérêt pour l'entreprise?
Pour l'entreprise, c'est très simple. En fait, il y a eu des pans entiers, des secteurs entiers, en fait, qui ne savaient plus comment faire pour attirer et fidéliser, en fait, les collaborateurs, comme dans la restauration ou l'hôtellerie. Et ça a été une vraie solution pour réattirer, fidéliser et puis améliorer, en fait, la qualité de vie au travail des collaborateurs. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant parce que d'un côté, ça permet de redonner de la qualité de vie au travail aux collaborateurs. Et puis, de l'autre côté, pour le collaborateur, ça lui permet d'avoir à nouveau de la souplesse financière et d'améliorer, en fait, son bien-être financier.
Il y a un marché considérable, hein, vous le disiez, c'est 2/3 des Français qui paient des agios au moins une fois par an, et vous donniez ce chiffre, 7 milliards d'euros de frais chaque année. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de gestion de l'argent aussi dans le porte-monnaie des Français?
Alors, c'est un peu la deuxième partie de Stairwage, où on redonne un peu d'autonomie et d'indépendance, en fait, aux collaborateurs pour gérer son argent qu'il a déjà gagné. Et la deuxième partie, c'est qu'effectivement, on l'accompagne pour mieux gérer, en fait, son budget et mieux gérer, en fait, son argent. Et donc, on a proposé et on propose, en fait, des modules pour l'accompagner, lui donner des conseils personnalisés. Et on va même aller plus loin. C'est qu'on a développé, en fait, on s'est entouré d'une intelligence artificielle qui permet d'avoir accès, en fait, aux aides publiques et sociales et aux aides en entreprise de la manière la plus simple possible et accessible. Parce qu'aujourd'hui, en fait, d'accéder à ces aides, c'est très compliqué, c'est très fastidieux. Et là, en fait, dans l'application Stairwage, vous avez la possibilité d'accéder très simplement et facilement à ces aides et dans n'importe quelle langue.
C'est quoi? C'est de la conversation? C'est basé sur
du conversationnel. Absolument. Ouais. C'est exactement ça.
Pourquoi est-ce que aujourd'hui, une entreprise a fait appel à vous plutôt que de confier directement cette mission à son service de RH? C'est que c'est aujourd'hui un casse-tête.
C'est un véritable casse-tête et ça fait intervenir, en fait, différents départements. Donc nous, c'est vraiment une solution clé en main. Et il y a une troisième partie de Stairwage dont on n'a pas parlé, c'est la partie financement. C'est-à-dire que c'est nous qui payons les acomptes sur salaire directement aux salariés. Donc il n'y a aucun impact sur la trésorerie de l'entreprise. Donc vous avez vraiment une solution clé en main avec la partie digitalisation des acomptes, la partie accompagnement budgétaire et puis la partie paiement des acomptes.
500 entreprises clientes, sûrement beaucoup
près de
plus.
Près de 1000.
Ah, près de 1000, pardon, absolument. Mais ça va ouais, tellement vite.
Et
à la fin de l'année, on sera à combien?
On sera au-dessus de 1000, établissements, de plus de 1000 établissements.
Donc vous continuez de signer là tous les jours?
On continue de signer et c'est un véritable mouvement, en fait, qui est en train de prendre, non seulement en France, mais aussi à l'international. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet d'accompagner les salariés au plus près de leur budget.
1000 entreprises clientes. Merci beaucoup Yann Le Floch, directeur général de Stairwage, d'avoir été l'invité de ce labo dans Happy Boulot. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en intégralité sur nos réseaux, en replay, en podcast sur RMC, BFM Play. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission avec de nouveaux sujets, de nouveaux invités. Vous restez en contact avec nous grâce à notre boîte mail happyboulot@bfmbusiness.fr et d'ici là, on vous souhaite d'être heureux au boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.